Bonjour, bienvenue dans cette année 2018. Vous savez que nous venons de vivre au début d'année une belle semaine de jeûne et prière qui nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire retrouver une vie de disciple, tant dans l'Église que dans sa famille, que dans sa vie personnelle, et cela en vue de gagner le monde qui nous entoure. Vaste programme, me direz-vous. Et vous avez tout à fait raison, tellement qu'il y a d'occasions à saisir pour témoigner, de personnes à qui parler de Jésus, d'organisations à rejoindre ou à encourager, d'études bibliques sur comment évangéliser, comment annoncer l'évangile à un musulman, comment annoncer l'évangile à un athée japonais, comment annoncer l'évangile à un motard tatoué. Comment annoncer l'évangile à un Esquimau albinos? Et même, comment annoncer l'évangile à un Yverdonois moyen? Devant l'ampleur de la tâche, on peut être assez vite découragé, surtout pour les Esquimau albinos. Et cela même avant d'avoir commencé. Alors ce matin, je vais vous proposer de commencer gentiment l'année, gentiment. Et de parcourir la Bible pour faire plus ample connaissance avec un lieu qui est connu de tous, qui sera le départ pour notre aventure évangélisationnelle conquérante de 2018. J'ai trouvé ce mot évangélisationnel sur Internet, je le trouve très sympa, c'est pas du français, mais c'est beau. Ce lieu, comme vous le voyez, c'est la montagne des Oliviers, ou autrement dit, le mont des Oliviers. Je vais sortir ma petite... Voilà. C'est une colline de 70 mètres qui se trouve à peu près à 1 km à l'est de Jérusalem. Ici, vous voyez cette colline, et puis le suivant, ça devrait fonctionner. Voilà, hop, voilà. Et puis depuis la montagne des Oliviers, vous avez une vue, un magnifique panorama sur tout Jérusalem. Les Oliviers, puisque c'est la montagne des Oliviers, on voit bien croire qu'il y a des Oliviers, ils y poussent en fait depuis des millénaires et ils sont à l'origine de ce qu'on appelle la montagne des Oliviers ou le mont des Oliviers. Les Juifs le connaissent également sous le nom de Mont de l'Onction. Mont de l'Onction, pourquoi ? Parce que l'huile produite par ces arbres servait à oindre les rois et les souverains sacrificateurs. Oups. Rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une agence de voyage vantant les mérites du lieu. Non, non, vous êtes bien dans une église évangélique dans laquelle Dieu désire nous parler aujourd'hui. Mais je vous propose néanmoins de vivre un petit voyage dans la Bible pour y découvrir ce qu'elle a à nous dire sur le mont des Oliviers et quelle incidence cela peut avoir dans notre propre vie. Voilà, le défi est lancé. Avant de prendre votre Bible, si vous l'avez, j'aimerais vous dire que ce sera une prédication un peu particulière où on va regarder chaque verset ou chaque passage comme une sorte de touche de couleur qui n'aura rien à dire. Mais à la fin, ces touches de couleurs différentes vont vous faire un beau tableau où on sera certainement, je l'espère en tout cas, tous concernés. Alors le premier texte que j'aimerais vous lire, voilà, ça se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 11, les versets 4 à 7, 1 Rois 11, chapitre 4 à 7, et j'aimerais vous lire ce qu'il est dit. « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Amodites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Une des premières références que nous trouvons sur le mont des Oliviers n'est pas vraiment très glorieuse. Effectivement, c'est de ce mont-là dont il s'agit, sur lequel Salomon a fait bâtir ses autels de Kemosh et de Moloch. Il va souiller ce mont en y faisant construire deux autels pour deux faux dieux, Kemosh, dieu de l'enfer, et Moloch, dieu à qui on offrait des sacrifices d'enfants jetés vivants dans le feu. Quelque chose qui devait certainement réjouir l'Éternel. Merci Salomon d'avoir ainsi souillé ce lieu, mais aussi d'avoir complètement déraillé dans sa vie spirituelle. Et durant 300 ans, ces hauts lieux vont perdurer. 300 ans. Jusqu'au jour où Josias, le roi Josias, va mettre un terme à cette idolâtrie au travers d'une grande réforme nationale. Et on trouve ceci dans 2 Rois 23, le verset 13, que je vous lis. Le roi Josias souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, voilà son nom, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kemosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Et si vous lisez plus loin ce texte, vous verrez que sa façon de faire est un petit peu particulière. Mais le but avoué était de mettre un terme à cette idolâtrie, ce qu'il a pleinement réussi. À partir de ce jour-là, cette montagne des Oliviers a été purifiée de ce qu'il a souillé, et c'est tant mieux. Mais pensez, pendant 300 ans, les Juifs ont voué un culte à ces divinités. Donc voilà. D'abord, ce mont des Oliviers, cette montagne des Oliviers, c'est un lieu souillé qui est devenu purifié. Deuxièmement, la montagne des Oliviers, c'est un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Malheureusement, après Josias, le peuple de Jérusalem s'est à nouveau détourné de Dieu. Et la situation a empiré à un tel point que Dieu a envoyé son prophète Jérémie pour annoncer la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Et cela, juste quelques années plus tard, une fois que Josias ait fait sa réforme. La conséquence visible de cette prophétie va être le départ de la gloire de Dieu qui se trouvait dans le temple et qui va quitter le temple avant que les Assyriens viennent détruire Jérusalem et le temple. Et c'est Ézéchiel, un autre prophète, qui nous le fait vivre. Et si nous lisons Ézéchiel 10, versets 18 à 19, nous lisons ceci. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison, c'est-à-dire du temple, et se plaça sur les chérubins. Les chérubins, des anges, déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'est. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut, c'est-à-dire au-dessus de la ville. Et puis le chapitre plus loin, versets 23 à 24 de Ézéchiel 11, il est dit « Les chérubins déployèrent leurs ailes et la gloire d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. » Et on retrouve cette montagne qui est la montagne des Oliviers. Et c'est intéressant de considérer que la gloire de l'Éternel ne va pas quitter le pays, remonter au ciel, mais elle va se déplacer dans un endroit où désormais il n'y a plus de construction, pas tout ce qui avait été bâti a été démoli, et elle va descendre sur la montagne des Oliviers. Et c'est justement là, sur cette image, sur cette montagne des Oliviers, que quelques centaines d'années plus tard, Jésus va y faire son quartier général. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour voir quel est en amont ce qui s'est passé sur cette montagne pour que Jésus y soit tellement associé. Alors, pouf, pouf. Troisième point, la montagne des Oliviers, c'est un lieu d'enseignement et de partage. Et je vous propose d'ouvrir cette fois-ci le Nouveau Testament pour, dans Matthieu 24, versets 3 et 4, lire ce qu'il est dit au niveau de cette montagne des Oliviers. Jésus, verset 3, s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise et vous connaissez la suite. » Et puis, quelques versets plus loin, chapitre 26, versets 30 et 31, après avoir chanté les cantiques, Jésus et ses disciples se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Dans ces deux passages, on voit Jésus venir et revenir dans le même lieu qui, comme je le disais tout à l'heure, est devenu vraiment le quartier général de Jésus quand il se trouvait à Jérusalem. On y voit qu'il enseigne ses disciples sur des choses importantes, sur des choses prophétiques, telles que sa mort, sa résurrection, son retour, la fin du monde. Donc des lieux d'enseignement, des lieux où Jésus va partager des choses importantes avec ses disciples. Voilà, ça c'était la troisième petite touche de couleur. Passons à la quatrième, un lieu de repos. Luc 21, 37 dit ceci, « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. » Jésus ne dormait donc pas à l'hôtel, mais dehors, à la belle étoile, sur son lieu qui était son centre de vie. Bref, un premier scout. Continuons notre petite touche. La montagne des Oliviers, un lieu de prière et de constance. Luc 22, verset 39, celui que vous avez sur votre petite feuille, jusqu'au 41. Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Cette cinquième touche nous dit que Jésus a fait de la montagne des Oliviers un lieu où il priait régulièrement, où il y allait d'une façon régulière, avec constance. Et puis, il a fait non seulement de ce lieu un lieu pour lui-même, pour qu'il puisse prier, mais c'était aussi un lieu où il encourageait ses disciples à prier. Vous connaissez l'importance de ces moments où Jésus allait devoir, d'ici quelques temps plus tard, être crucifié et mis à mort. Et le dernier point, voilà, il y en a que six touches. La montagne des Oliviers, un lieu de révélation et de promesses reçues. La dernière apparition de Jésus avant qu'il ne monte au ciel se trouve dans Acte 1, verset 8. Il est dit ceci, jusqu'au verset 12, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils se retournèrent à Jérusalem. D'où pensez-vous-ils qu'ils étaient ? De la montagne, appelée montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Un chemin de sabbat, c'est 2000 coudées, ça fait à peu près 1100 mètres, donc à peu près un kilomètre. Étrangement, alors que Jésus va être enlevé au ciel, nous le retrouvons toujours à son quartier général, sur la montagne des Oliviers, et c'est là qu'il va donner à ses disciples une des plus grandes promesses qu'il pourra donner aux êtres humains, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Une fois partis des anges, un lieu donc de révélation aussi, apparaissent et leur révèlent que Jésus va revenir sur terre physiquement de la même manière. Et en revenant dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Zacharie qui va nous prophétiser que le Messie, c'est-à-dire le Christ, reviendra physiquement sur la montagne des Oliviers. On trouve ça dans Zacharie 14:4, où il est dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Est. » Amen. Bon, alors je vous entends déjà. Vous allez me dire « Merci, mais tu nous as bien baladés dans toute la Bible pour nous parler d'une montagne. On ne voit pas très bien où tu veux en venir. » Vous avez raison, moi non plus. On est quand même loin de cette belle aventure évangélisationnelle conquérante promise au début de la prédication. On est d'accord ? Oui ? On est d'accord. Ah, bah continuons alors. Maintenant que vous avez toutes les couleurs, on va essayer de composer l'image. Pratiquement, vous, est-ce que vous avez un tel lieu ? Est-ce que y a-t-il dans votre vie une montagne des Oliviers où vous pouvez vivre et expérimenter tout ce que nous venons d'entendre ? Et la réponse est oui. Et ce lieu, c'est votre propre maison. C'est votre appartement, votre chambre, c'est votre chez-vous. Et si vous ne pouvez pas encore répondre oui, alors ben Dieu va nous exhorter ce matin à vivre ces réalités. Alors comment est-ce que je peux faire de ma maison une montagne des Oliviers ? Alors, et je vais reprendre point par point ce que nous avons vu avec la montagne des Oliviers pour cette fois-ci vivre très pratiquement des choses. Vous. Alors, ma maison, un lieu de souillure qui a été purifié. Et on a tous maintenant à l'esprit tout ce qui s'est passé avec la montagne des Oliviers, avec Salomon, avec Josias. Y a-t-il, c'est la question qu'on va poser pour ce premier point, y a-t-il encore des choses dans ma maison qui ne glorifient pas Dieu ? Des livres, des objets qui pourraient avoir un passé occulte ou un drôle de passé, des attitudes non chrétiennes qui souillent ma maison. Comme Josias, je suis appelé à me libérer de ces choses, à purifier ma maison pour qu'elle puisse être utilisée par Dieu. L'ai-je fait ? Ma maison, un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que j'ai invité Jésus à venir régner d'une façon permanente dans ma maison ? À tel point que quand on vient chez moi, on ressent la présence de Jésus. On ressent sa paix. On se dit, mais il y a quelque chose de spécial chez toi, c'est quoi ? C'est des huiles essentielles. Puis vous dites, non, c'est l'huile essentielle, le Saint-Esprit qui règne chez moi. Troisième point, ma maison, un lieu d'enseignement et de partage. Est-ce qu'on parle de Jésus dans ma maison? Est-ce que j'en parle avec ma famille? Est-ce que je parle de Jésus avec mes voisins qui viennent chez moi? Est-ce que je parle de Jésus avec les visites que je reçois? Est-ce que j'y parle de la Bible? Est-ce que je l'explique à ceux qui viennent chez moi? Ah, j'ai lu un merveilleux, comme Camille a fait, j'ai lu ce matin un beau passage, je vous le donne. Est-ce que vous le faites? Oh non, 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 je ne veux pas les déranger. Est-ce que je raconte ce que j'ai entendu au culte? Quand j'étais pasteur en Belgique, j'avais été visiter une de mes paroissiennes, et puis je lui disais, est-ce que vous racontez à d'autres personnes ce que je dis au culte? Oh non, hein, je ne raconte à personne. Je lui dis, eh ben on va changer, raconter à tout le monde. Mais est-ce qu'on le fait, nous, derrière ce petit ricanement? Est-ce que je partage la bonne nouvelle du salut avec tact et sagesse? Bien sûr, quand des invités sont chez moi. Ma maison, un lieu du repos. Alors bien sûr, on va laisser de côté le lit. Est-ce que je suis hospitalier? Est-ce que j'ai l'habitude d'ouvrir ma maison pour un repas? Pour une nuitée de quelqu'un qui a besoin de passer la nuit quelque part? Ou pour une tasse de café? Est-ce que les gens qui viennent chez moi peuvent avoir confiance en moi? À tel point qu'ils peuvent se décharger de leurs soucis, en disant voilà ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que tu peux m'aider? Finalement, est-ce que chez moi, les gens qui viennent trouvent du repos à leur âme? Ma maison, un lieu de prière et de constance. Alors bien sûr, je ne veux pas vous faire l'injure de vous dire est-ce qu'on prie chez vous? Mais vous priez seul, tout le temps, en famille, en couple, avec vos invités. Avant le repas, peut-être, et après. D'une façon régulière, pour vos contacts, pour vos voisins, pour votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. D'une façon régulière. Enfin, vous voyez le tableau commence à se former. Verset le point 6, ma maison, un lieu de révélation, de promesses reçues. Est-ce que j'y reçois des promesses pour ma famille? Ou est-ce qu'il faut absolument que je sois à l'église pour ça? Est-ce que je reçois aussi des promesses pour mes contacts, mes voisins, pour les gens pour lesquels je prie? Pour mes invités. Parce que quand vous invitez quelqu'un à manger, passer une soirée, à jouer, à regarder la télévision, à boire une tasse de café, est-ce que vous priez pour lui avant? Pour que l'occasion se présente pour parler de l'évangile, d'une façon tout à fait naturelle. Pas « Bonjour, tu es chez moi parce que je veux te parler de Jésus, alors écoute. » On est d'accord? Est-ce que Dieu se révèle à moi? Est-ce qu'il me montre ce que je dois faire de mes journées comme Jésus le vivait au quotidien sur la montagne des Oliviers? Parce que partir à la conquête du monde, évangéliser, vivre une aventure évangélisationnelle conquérante, ce n'est pas tout quitter pour annoncer l'évangile aux musulmans, aux athées japonais, aux motards tatoués, aux esquimaux albinos,
ou même aux Yverdonois moyens. Non !
Partir à la conquête du monde, c'est d'abord être au service de notre Seigneur avec les outils et les moyens qu'il nous a donnés là où nous sommes et là où nous vivons. Partir à la conquête du monde, c'est d'abord être au service de notre Seigneur avec les outils et les moyens qu'il nous a donnés là où nous sommes et là où nous vivons. C'est d'abord être témoin dans ma maison, sur ma montagne des Oliviers. Partir à la conquête du monde, c'est oser ouvrir sa maison. C'est la mettre à la disposition du Seigneur. J'aimerais conclure en disant ceci. Personnellement, je vais m'engager, hein. Personnellement, je dois vous avouer que ma maison est un petit peu ma grotte dans laquelle j'aime bien être tranquille. À tel point que quand ça sonne, je dis à ma femme, on attend quelqu'un ? Et c'est un petit peu une cachette, ma maison, finalement. Oh, faut pas me déranger. Alors oui, c'est un petit peu une grotte où j'aime bien être tranquille, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Elle est bien sûr un lieu de repos pour moi. Mais sous le regard de Dieu, puisqu'il est mon Seigneur, et que tout ce que j'ai lui appartient, ma maison doit aussi être un lieu d'accueil. Ma maison doit aussi être un lieu de partage. Ma maison doit être aussi être un lieu de vie chrétienne. Ma maison doit aussi être ouverte sur l'extérieur. Et si ma maison n'est qu'une cachette, alors je suis un pauvre chrétien. Et c'est ce que parfois je suis. Voilà ma prière pour aujourd'hui. Que ma maison soit comme une montagne des oliviers, où ce qui était souillé va disparaître, où la gloire de Dieu est présente, où je prie, où j'accueille, où c'est un lieu convivial, où les gens aiment venir. Est-ce que c'est la vôtre ? Si c'est la vôtre, alléluia. Si ce n'est pas la vôtre, alors j'aimerais vous inviter de faire de même, parce que quelqu'un nous a précédé, Josué, on peut un petit peu tordre le texte, mais ça ne fait rien. Enfin, ça ne fait rien, non, mais vous me pardonnerez. Josué dira, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est une prière que j'aimerais, qui est mienne, que je veux faire mienne aujourd'hui, parce que j'ai des pas à faire, parce que je ne peux pas dire je veux me lancer à évangéliser autour de moi si ma maison reste une cachette, si ma maison reste un endroit clos, si ma maison n'est que le lieu où je peux être tranquille. Mes amis, notre maison est le lieu où nous pouvons être dérangés, d'abord par Jésus et ensuite par des gens qui sont en recherche. Amen. Alors, on va faire quelque chose de particulier, je ne sais pas encore trop quoi, c'est vous qui terminerez la peinture, mais je voudrais vous proposer de signer votre propre œuvre de ce matin. Vous avez pu mettre sur votre vie ces différentes touches en disant, tiens, est-ce que ma maison est une maison de prière ? Est-ce que ma maison est une maison d'accueil ? Est-ce que ma maison est une maison purifiée ? Est-ce que ma maison est une maison qui... etc. Et puis que vous puissiez signer votre œuvre, puisque vous avez mis vos propres touches de couleur, en disant, ben oui, moi je veux arrêter que ma maison ne soit qu'une cachette ou qu'un lieu où je me retire, et que ce soit un lieu qui soit le quartier général de ma vie spirituelle. Pour moi, pour ma famille
et pour les gens qui habitent autour de moi. Amen. Alors on va incliner la tête. Et puis, on va laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Et puis, si vous désirez, aujourd'hui, peut-être publiquement, peut-être dans votre cœur, comme vous le voulez, mais dire, ben, j'ai compris ce que Jésus veut me dire aujourd'hui. J'ai compris que ma maison doit ne plus être une prison, mais doit être un oasis. Si j'ai compris ça, bien, en me levant, ce matin, je donne ma maison à Jésus pour qu'il puisse en faire une montagne des oliviers et pour que je puisse m'épanouir dans ces lieux. Si c'est votre prière, si c'est votre souhait, eh ben, simplement vous allez vous lever à votre place et puis vous allez dire « oui, je veux prendre ce que nous avons reçu dans le cadre de ce temps de prière et de jeûne au sérieux. Je veux aussi mourir vers l'extérieur. » Ouvrir vers l'extérieur, c'est aussi ouvrir ma maison. Alléluia. Merci pour tous ceux qui sont levés, pour ceux qui se lèvent encore. On a fait comme un bouquet de couleurs, de versets ce matin pour comprendre ce que Dieu voulait nous dire. On va terminer par un bouquet de prières. Et je propose à chacun, chacune qui s'est levé, de pouvoir adresser à haute voix sa prière en disant « voilà, je te donne ma maison, qu'elle soit une véritable montagne des oliviers pour mon quartier, pour ma vie, pour ma famille. » Et ces 6 points, ben, je pense que vous avez pu les noter pour y les reprendre si jamais sur l'enregistrement, mais nous voulons les mettre en pratique. Et je vous propose maintenant de pouvoir prier librement, à haute voix, et que ça fasse comme un concert de louanges, comme un bouquet qui s'élève à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Alors que nous prions, Seigneur, nous proclamons que notre maison va devenir une montagne de l'onction, où tu vas te déverser, où il y aura des miracles et des prodiges, non pas parce que nous le voulons, mais parce que tu es grand, parce que tu es Seigneur et que tu te réjouis quand tes enfants entrent dans tes plans. Et nous nous réjouissons, Seigneur, pour ces témoignages que nous allons apporter demain, la semaine prochaine, dans un mois, parce que ce que tu dis, Seigneur, ça marche. Et si Jésus a vraiment désiré, voulu entrer et faire son quartier général, c'est qu'il y avait une raison. Cette raison, nous la comprenons, Seigneur. C'est que tu veux que nous apprendre à toucher le monde par notre maison. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.